Voilà, c'est Pierre. Et je vous propose de lire Actes chapitre 12. Quand on aborde le sujet de la prière, on se pose des fois la question, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas ? En fait, le texte qu'on va lire pose la question contraire. Pourquoi Dieu répond à des prières qu'on ne fait pas ? Je trouvais que c'était intéressant. Donc, acte 12, à partir du verset 1. Et je lis dans la NBS. En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fait garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, décidés à le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, était endormi entre 2 soldats, tandis que devant la porte des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, attache tes sandales !» Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi !» Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt, l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux qu'attendait le peuple. » Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. On va s'arrêter là pour l'instant. Ouais, si, versets 13 et 14. « Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. » Donc là, on va avoir un zoom sur cette réunion de prière. Ça va bien jusque-là, le récit, hein ? C'est parfait, hein ? Théologiquement correct. C'est l'image qu'on se fait de l'église de Jérusalem, la belle église primitive qui prie pour son leader qui est en prison et qui s'attend donc au Seigneur. Et puis de l'autre côté, on a quand même une action de Dieu qui est absolument extraordinaire. Hein. Même Pierre a du mal, il faut qu'il se pince pour être sûr que c'est vrai. Et on se dit, ben voilà, l'église en train de prier, Dieu agit, Pierre est libéré. Et tout va bien. Alors, les versets suivants modèrent un petit peu mon enthousiasme. Donc, il vient de frapper à la porte. Et cette jeune femme, Rhode, qui va voir les gens qui sont en train de prier. N'oublions pas, hein. En fait, ça fait une semaine qu'ils prient. Et là, voilà ce qu'on lui dit. « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et eux disaient, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper. C'est vrai que c'est vraiment c'est tragico-comique ce passage. Ils ouvrirent la porte et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. La suite nous raconte que c'est Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode, le grand instigateur de cette persécution dans l'église de Jérusalem. Il a régné 3 ans et l'historien Joseph parle de lui. Apparemment, il avait un caractère un peu spécial, mais peu importe, ce n'est pas notre histoire. Pourquoi Luc s'est pas arrêté au verset 14? C'était tellement mieux l'histoire jusqu'au verset 14. Pourquoi est-ce que Luc doit nous rapporter ces détails sur la réaction qui est quand même surprenante de l'histoire, la réaction de l'Église? J'ai du mal à penser que l'Église est en train de prier pour la libération de Pierre. Seigneur, libère Pierre, libère Pierre. T'es folle ? Vous savez pourquoi il parle de son ange? Parce qu'en fait, il y avait des coutumes quand même à l'époque qui circulaient, comme quoi quand quelqu'un était décédé, après son décès, il y avait son ange qui rôdait dans le coin. Donc pour eux, c'était plus facile d'imaginer que Pierre avait déjà été exécuté et que c'était son ange qui rôdait là, plutôt que Dieu ait pu libérer Pierre de sa prison. Et pourtant, il prie avec ferveur. Alors le chapitre 12 des Actes, c'est un chapitre qui va faire la charnière entre deux cycles. Le premier parle vraiment de Pierre, et puis à partir du chapitre 13, on va plus voir Pierre, hein, il va apparaître simplement une fois, mais on va parler surtout de Paul dans la suite du livre des Actes. L'Église prie avec ferveur. Quand est-ce qu'on prie avec ferveur? On peut prier, mais là, il y a marqué qu'on prie avec ferveur. Quand est-ce que vous priez avec ferveur? Quand on ne sait pas quoi faire d'autre? Quand on a tout essayé et qu'il n'y a rien qu'à marcher? En dernier recours. En fait, c'est terrible hein, de dire une chose pareille. Même si c'est vrai qu'il y a des certaines circonstances où on se dit « ça serait bien de prier », mais peut-être que ça révèle quand même que notre motivation pour la prière n'est pas toujours excellente. Mais on y reviendra. Pourquoi est-ce que l'Église de Jérusalem prie avec ferveur? En fait, on a une série de faits qui justifient cela. En quelques semaines, le groupe a subi quand même quelques coups. A pris quelques coups. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, le chef charismatique a renié le maître. Jésus les a quittés. Le trésorier est parti avec la caisse et s'est suicidé. Les autorités leur ont interdit de répandre le message déjà à deux reprises. Ils ont été emprisonnés à cause de ça. Il y a eu de l'hypocrisie et de la dissimulation dans l'Église. Un vent de division a soufflé à cause d'un racisme latent. Le super diacre Étienne a été lapidé sous les ordres d'un fanatique extrémiste antichrétien. Jacques a été mis à mort par Hérode pour ravir les Juifs. Et maintenant, Pierre est en prison et attend son heure. Bon, il y a bien quelques bonnes nouvelles, hein. Il y a eu 3000 conversions. Mais vous savez, dans ces situations de crise, c'est malheureusement pas toujours les optimistes qui ont le dernier mot. D'ailleurs, Jésus l'a dit, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. » Il y a même des enseignants dans l'Église qui disent, « C'est marqué. » Avec ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et qu'est-ce que nous devons faire? Alors, c'est évident que l'Église de Jérusalem a l'habitude de prier. Ça fait partie de la vie de l'Église de Jérusalem. Alors, toutes les traductions hein, de ce verset, l'Église prie ardemment Dieu en sa faveur. La seconde 21 dit, l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La colombe dit, sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Même Darby est d'accord, mais l'Assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Bref, on est d'accord sur la teneur de la prière. On a 7 jours, c'est les pains sans levain, et il est marqué dans le texte qu'Hérode a décidé de le faire comparaître après la Pâque. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu dans une telle situation? C'est intéressant de voir que dans le texte, On sait beaucoup de choses sur cette prière. On sait que l'Église s'adresse à Dieu. Ça, c'est un bon commencement. On sait que c'est l'Église rassemblée qui prie. On sait qu'il prie pour Pierre. On sait comment il prie avec ferveur. On sait pourquoi il prie, parce qu'il est en prison. Mais on ne sait pas ce qu'il demande. Le texte ne nous le dit pas. Depuis le début des Actes, l'Église prie. Acte 1.14, ils se retrouvaient souvent pour prier. Quand il s'agit de choisir le remplaçant de Judas, l'Église prie. Dans Acte 2, ça fait partie de la vie courante de l'Église. On se rassemble, hein, vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier. Dans Acte 3, Pierre et Jean montent au temple pour prier. Dans Acte 4, suite à l'emprisonnement de Pierre et de Jean, l'Église prie. Dans Acte 6, les apôtres délèguent des tâches pratiques pour se consacrer à la prière. Dans Acte 9, suite à la résurrection, pour une résurrection, Pierre se met à genoux et prie. Dans Acte 10, avec cette vision, Pierre prie à 3 reprises. Dans Acte 13, ça va continuer avec l'envoi missionnaire. La vie de l'Église, du livre des Actes, est empreinte de prière. Et donc, on a dans Acte 12 un zoom sur cette vie de prière, en sa faveur. Prier pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on demande quand on prie pour quelqu'un? C'est pas mal comme question, ça, non? Alors aujourd'hui, on n'est pas derrière des barres, des barreaux. Enfin, pas que je sache. En tout cas, ils ne sont pas visibles. Et peut-être qu'effectivement, on n'a pas besoin de prier pour quelqu'un de notre communauté, de votre communauté, qui est en prison. Mais néanmoins, nos prisons personnelles existent bel et bien. Que ce soit la peur, que ce soit le souci, que ce soit la peine, la culpabilité, l'amertume, le non-pardon, le péché. Toutes ces prisons qui nous empêchent de nous approprier les promesses de Dieu et les bénédictions qui en découlent. Donc je suis sûr qu'il y a parmi nous des couples, des familles, des enfants qui sont en prison. C'est vrai que, bon, grâce à Porte Ouverte, on prie pour les prisonniers, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on prie pour les frères et sœurs dans l'Église? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières pour les membres de l'Église? Quand j'étais à Uzès, il y avait une chère sœur qui me demande à la sortie du culte de prier pour son fils qui passe le permis demain. Alors bon, ça c'est Pierre Barito, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ces... Ça n'engage que moi ce que je vais dire. Mais je lui dis non, je ne veux pas prier pour ton fils, pour qu'il ait son permis demain. Parce que si après-demain il a un accident et qu'il se tue, pour moi, ça ne sera pas le bon plan. Par contre, je veux bien prier pour ton fils, pour qu'il fasse une rencontre avec le Seigneur et que sa vie soit changée. Vous pouvez le dire autrement. Mais c'est vrai qu'on prie pour que nos enfants aient le bac, n'est-ce pas? C'est tellement important, le bac. Eh oui. Que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Pour que l'Église devienne celle que Dieu veut qu'elle soit. Presque plus facile de prier pour Porte Ouverte. Et donc là, on a l'Église de Jérusalem devant une situation insurmontable qui prie. Alors essayez de gratter un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien demander à Dieu, puisque j'ai supposé qu'ils ne priaient pas pour la libération, vu leur surprise. Alors on a des pistes dans Colossiens 4, on l'a un petit peu mentionné ce matin, il y a Paul qui est en prison et il demande qu'on prie pour lui. Et voilà ce qu'il dit au verset 3, « Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ, car c'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Ce n'est pas les barreaux qui vont empêcher un Paul de proclamer l'Évangile. Et puis, on a une autre piste dans Acte 4, c'est justement après le premier emprisonnement de Jacques et de Jean. Ils ont été libérés, sitôt libérés, à partir du verset 23 de Acte 4. Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et des responsables du peuple leur avaient dit. Et ils se mirent à prier Dieu. Et là, on a la prière. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve. Alors c'est formidable quand même, je trouve quand même. Enfin, on pourrait passer presque aussi beaucoup de temps sur cette prière. Parce qu'ils viennent d'être libérés de prison. Et puis ils remettent les choses en perspective. À qui on parle? C'est qui le Dieu auquel on s'adresse? C'est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël, avaient formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Et ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance par ta puissance et ta volonté. La toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, la préscience de Dieu, tout est là dans cette prière. C'est bien d'aligner nos prières sur ce conseil de Dieu. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Et là, prière précise pour nous, donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main, alors ça on aime un peu moins dans notre milieu, mais bon, il faut bien que je le lise, c'est dans la Bible. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est clair. Et au chapitre 5, ils vont être à nouveau, il y a un ange qui vient leur dire, allez, continuez à annoncer, et ils vont être à nouveau emprisonnés, et ils vont dire au Sanhédrin, devant lequel Pierre s'était quand même franchement dégonflé quelques semaines auparavant, à qui on va obéir? À Dieu ou aux hommes? Donc vous voyez, ça, on a un faisceau d'indices quand même qui semble qui m'amène à penser que la préoccupation première de l'Église, alors que Pierre est en prison, c'est que l'Église continue à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Pas pour la délivrance, mais pour la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Je ne sais pas, la dernière fois que la terre a tremblé ici, suite à une réunion de prière, la semaine dernière? Non, mais ça veut dire quand même, je pense que voilà, tu as marqué un point, quoi. Tu te dis... Maintenant, ça c'est tout à fait louable de la part de l'Église. Et pourtant, dans la pensée de l'Église, ça va se faire sans Pierre. Pierre va mourir. Il a été arrêté. Ça plaît aux Juifs. Il va mourir. Et on a des bons éléments pour croire ça. Jacques vient d'être assassiné. Il a été tué. Et puis on connaît la réputation d'Hérode. Et donc là, je vois que Luc décide de nous révéler que pour l'église de Jérusalem, la libération de Pierre n'est pas au programme. Ils ne peuvent pas envisager que Dieu va libérer Pierre. Vous voyez, ils ne sont pas complètement incrédules, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Néanmoins, la libération de Pierre n'est pas au programme. Alors on a d'autres exemples, hein. On pourrait aussi passer beaucoup de temps, mais je pense à Abraham, hein. Abraham avec une femme stérile, et les années qui passent, ben, il dit, oh, il y a Eliezer, le premier-né dans ma maison, ce sera lui l'héritier. Puis quand sa femme lui dit, oh, t'as la servante, ah oui, finalement, elle est pas mal. On imagine des plans B quand on veut donner un petit coup de main à Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est pas complètement de l'incrédulité, mais le plan A, il est juste pas possible. Lorsque Moïse vient annoncer que Dieu va libérer son peuple dans Exode 6, et la solution que Moïse expose, c'est la solution parfaite à un peuple qui a vécu 400 ans d'esclavage. Et puis au verset 9, il est dit que le peuple n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience sous ce dur esclavage. Et il y a des situations, alors soit parce qu'elles ont été trop traumatisantes, soit parce qu'elles ont été trop longues, qui nous amènent dans ces impasses où nous ne pouvons pas croire que Dieu va intervenir dans cette situation. Qu'est-ce que l'Église peut bien prier pour Pierre? Oh, je l'imagine sans difficulté. Seigneur, fais que Pierre tienne le coup! Ben ouais, on se souvient que la dernière fois, ça n'a pas été terrible. Garde-le d'un triple reniement, d'un autre reniement. Vous imaginez l'église de Jérusalem si Pierre renie à nouveau son maître. Donne-lui d'annoncer ta parole avec courage. Lui, il dort. Mets tes paroles dans sa bouche. Et puis, fortifie l'église pour la suite. Il va falloir qu'on fasse sans Pierre. J'imagine. Pendant ce temps-là, Dieu se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec cette église-là? Ils n'ont rien compris. Allez. Dieu va attendre le dernier moment, c'est-à-dire, il va comparaître le lendemain, hein, ça fait une semaine. Et Dieu va intervenir. Alors c'est vrai qu'il... on passe souvent par ces moments-là. J'ai parlé d'Abraham, mais c'est vrai qu'Abraham, une femme stérile, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'elle soit ménopausée pour que Dieu intervienne. Et pendant ce temps-là, ça a pris 25 ans pour un Abraham. Et quand vous lisez qu'il est le père des croyants, moi, ça me rassure. Il y a place pour la progression. Et donc, Dieu a permis, d'autres diraient qu'il a voulu, qu'il soit arrêté et enchaîné. L'attitude de Pierre en prison, je l'ai dit là, en train de rigoler, vous savez, on divise une église sur cette question. Comment, quelle doit être notre attitude en prison? Alors, il y avait les partisans de Paul. Si tu es partisan de Paul, dans Actes 16, Paul et Silas chantent les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et donc, tu imagines Paul... Les gars, là, on est en prison, c'est pas pour rien, Dieu nous a mis là. Allez, on chante toute la nuit. Et il n'y a pas les boules caisses, donc tout le monde entend l'évangile. Ça, c'est les partisans de Paul. Et puis, tu as ceux de Pierre qui disent, non, non, en prison, tu dors. Et là, les gars, ils ne peuvent pas s'entendre. Bon, enfin, en tout cas, moi, je trouve que dormir en prison, quand tu sais que demain, on va te mettre à mort, c'est quand même un beau témoignage. Ça fait moins de bruit. Pour la libération de Paul à Philippe, il va y avoir un tremblement de terre, hein, vous savez, tout ce qui se passe. Et ici, la libération est absolument d'une discrétion parfaite, à tel point que même Pierre pense qu'il rêve. C'est quand même marrant, habille-toi, fais tes lacets, il faut tout lui dire. J'espère que vous voyez où je veux en venir, mais... La patience de Dieu avec nous et sa grâce dans sa manière d'agir, et puis la diversité que Dieu utilise pour nous amener là où il veut nous amener. Et donc on arrive à cette église qui prie. Alors j'ai marqué, prier c'est bien, croire que Dieu peut répondre c'est mieux. vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de Sarah, ma petite dernière. Quand elle était enfant, avec ma femme, surtout ma femme, on priait avec elle le soir. Et un soir, elle dit, Jésus, je voudrais un chat. Et moi, comme un imbécile, je dis Amen. Parce qu'il n'était pas question d'avoir un chat à la maison. Sauf que le lendemain matin, sur le paillasson, il y a un chaton. Et là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux pas me renier, j'ai dit Amen. Ça m'a fait réfléchir. Dieu est patient avec moi. Et donc, vous avez quand même du mal à penser que l'Église prie ardemment pour la libération de Pierre et qu'elle réagisse comme ça. Il n'y en a qu'une qui croit que c'est Pierre, c'est Rhodes. Là encore, ça nous ramène quelques semaines en arrière, lorsque les femmes, encore une fois, et là, alors, vous savez, bon, le film auquel tu fais allusion, c'est Lee Strobel, Plaidoyer pour la foi, donc un excellent livre d'apologétique, mais c'est vrai que le fait que ce soit des femmes à qui Jésus se révèle en premier lors de la résurrection, ça plaide en faveur d'un récit qui n'a pas été fabriqué. Parce qu'un bon juif pieux remercie Dieu chaque matin qu'il n'est pas une femme. Et la parole d'une femme n'a absolument aucune valeur dans un tribunal. Alors que ce soit des femmes qui viennent annoncer aux hommes que Jésus est ressuscité, c'est juste improbable dans la société de l'époque. Et d'ailleurs, la réaction des apôtres, il s'est marqué dans Luc 24, ces paroles leur parurent une niaiserie. Ça, c'est les apôtres. Ils ne crurent pas les femmes. Il est vrai que quelques femmes nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues le bon matin au tombeau. Là, ça, c'est le verset 22. Et donc, encore une fois, l'ange, ça leur paraît plus probable que Dieu, que Pierre lui-même. Vous voyez comment on peut projeter nos limites humaines, spirituelles, émotionnelles dans notre vie de prière. Quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, des angles morts. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, et heureusement, que cela ne limite pas l'œuvre de Dieu. Quand on prie, on ne sait pas quand et comment Dieu va répondre. Mais ce dont on est sûr, c'est que nous allons être surpris. Et que cette surprise participe à ce que Dieu soit glorifié. Et c'est ça le point le plus important de tout ce que je viens de dire. C'est que ce zoom sur cette réunion de prière de l'église de Jérusalem nous empêche de penser que la valeur, que la réponse de Dieu dépend de la valeur de la prière, mais dépend uniquement de qui est Dieu. D'ailleurs, dans acte 4, acte 5, il ne semble pas que l'église ait prié d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que Luc nous rapporte cette prière ici. Alors on va essayer de conclure avec tout ça. Je ne décrirai pas acte 12 comme étant un exemple de la prière de la foi dont nous parle Jacques 5 au verset 16. Pierre a retrouvé la liberté malgré la prière fervente d'une église qui ne pensait pas que c'était possible. Et elle est stupéfaite pour cette réponse. Remarquez aussi que, et ça c'est le troisième indice que je donnerais par rapport à ma supposition que l'Église priait pour que l'annonce de l'Évangile continue, au verset 24 d'acte 12, il est marqué que « Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait ». Et même si là, encore une fois, on n'a pas le contenu de la prière, on voit bien que le Seigneur continue à soutenir l'Église pour que la parole progresse. Et puis, heureusement que Dieu ne limite pas son action à ce que l'Église demande. Dans le plan de Dieu, la progression de l'Évangile impliquait la libération de Pierre, même si l'Église ne pouvait l'imaginer. Ça serait quand même une scène tragique de penser que Dieu puisse écouter nos prières et dire, Ah, t'as pas prié pour la libération? Ben, c'est dommage, j'allais le faire, mais comme t'as pas demandé, ben, il sera tué. J'aurais pas tellement envie de m'adresser à un tel Dieu. Qui oserait adresser des requêtes à un tel Dieu? Pierre va effectivement disparaître du livre des Actes, non parce qu'il sera mis à mort, mais parce qu'il va travailler ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu répond à des prières qu'on ne fait pas, à ces zones d'ombre? Je crois que le cœur de l'Église était bien orienté. La demande de l'Église, elle est juste, elle est légitime, même si elle est limitée. Et lorsqu'on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, peut-être qu'il est inutile pour nous, alors ça, on va encore faire des clivages, d'ajouter tous les détails. Vous savez, des fois, on est très précis dans ce que Dieu devrait faire pour que sa volonté s'accomplisse. Et moi, je crois que Dieu, dans sa bonté, et dans sa puissance et dans sa toute connaissance, transforme nos prières. Mais il voit le cœur de la prière. Et il voit l'intention de la prière. Et il voit la motivation de la prière. Et je pense que ce passage, si Luc nous rapporte ça, je pense que c'est vraiment pour détourner l'attention, notre attention de ceux qui prient vers celui qui répond. Parce que le personnage central de ce passage, ce n'est pas cette église qui prie avec ferveur, ce n'est pas un Pierre qui est libéré, c'est ce Dieu tout-puissant qui agit, qui intervient directement dans la vie de l'Église. Et ça gomme toute pensée qu'on pourrait avoir que notre prière devient méritoire, que Dieu devrait nous répondre parce qu'on prie de telle ou telle manière, avec ferveur, quel que soit ce qu'on met derrière, avec ferveur. Dieu, en fait, alors là, je vais dire une grosse hérésie. Dieu n'a pas besoin qu'on prie. C'est pour qui la prière? C'est pour nous. En fait, quand on prie, c'est juste nous mettre à notre place et reconnaître que Dieu est Dieu et que nous avons besoin de lui. C'est juste lui dire que nous dépendons de lui. Et c'est pour ça, vous savez, tout ce que je disais avec un petit air un peu cynique au début, en disant qu'on prie que pour les situations difficiles. Ça nous révèle quelque chose de ce que nous sommes par rapport à qui est Dieu. Et ce matin, on a parlé de Dieu premier en tout. Mais ça, je sais faire. Alors bon, c'est bon. Je gère. Mais si Dieu est vraiment Dieu en tout dans nos vies, il n'y a pas un seul domaine dans notre vie où nous ne pouvons pas nous placer devant lui dans la prière, dans la dépendance de Dieu pour lui demander que sa volonté soit faite et qu'il soit glorifié. Vous savez, moi je me dis, ce passage, il m'encourage vraiment parce que tu peux prier complètement à côté de la plaque, j'exagère, et puis finalement, à la fin, tu dis, wow, quel Dieu nous avons. Rien ne dépend de moi. Au psaume 50, verset 15, il y a marqué, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, là. Mais moi, ça me libère. Et je me dis, ça me donne envie, finalement, de m'adresser à mon Père avec toutes mes limites, conscient de mes limites, de mon manque de compréhension, mais avec un Dieu qui intervient dans des situations pour sa gloire. Si la prière est puissante, n'est pas à cause du contenu de la prière, mais à cause du Dieu à qui nous nous adressons. Luc aurait pu se passer de nous raconter ce passage. Mais je pense qu'il le fait, non pour nous culpabiliser ou pour diminuer l'Église de Jérusalem, mais pour rendre gloire à Dieu. Peut-être que ce dernier verset vous permettra de saisir la dimension des mots de Paul dans Éphésiens 3, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, et ici il fait allusion au verset 20 du chapitre 1 d'Éphésiens, c'est-à-dire la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen.